Allez, je vous invite sans tarder à ouvrir votre Bible dans la deuxième épître de Pierre. On va continuer notre méditation sur le thème des qualités bibliques. Donc on a déjà vu la différence entre le fruit de l'esprit, le résultat de notre communion avec le Seigneur et les qualités bibliques. Donc on avait vu la première qualité en introduction générale qui est la sagesse d'en haut est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Après, nous avions pris le temps de réfléchir sur donc la deuxième épître de Pierre et on avait vu cette image de l'évolution de notre vie chrétienne où il y a évidemment cette base, celle de la foi en Jésus-Christ, celle du sacrifice de Jésus, mais on ne doit pas rester là, on doit effectivement être rempli de l'Esprit, c'est ce qu'on verra en versets 3 et 4. Et effectivement, la notion des qualités, parce que notre but n'est pas seulement de rester à la foi « Jésus m'a sauvé », notre foi n'est pas seulement de dire « Tiens, j'ai reçu pour ma vie la paix, la joie, je suis content, je suis bien dans ma vie », mais il faut que nous développions les qualités afin que nous soyons des hommes et des femmes accompli, parfait. Parfait, je ne veux pas dire qu'on est sans défaut, mais parfait dans le sens biblique, il ne nous manque rien. Je reprends cette image, vous êtes tous des hommes et des femmes parfaites. Ah bon? Ben ouais, vous avez tous deux mains, deux bras, des doigts, des yeux. En ce sens, vous êtes parfaits, vous êtes accomplis, il ne vous manque rien. Et nous sommes appelés, effectivement, à développer dans cette notion des qualités. Alors pourquoi réfléchir sur les qualités? On va le dire, on va le répéter, mais la différence entre le fruit de l'esprit qui est vraiment la conséquence, le résultat de notre communion avec le Seigneur, les qualités, nous devons les rechercher. Et bien souvent, c'est un aspect de notre vie où on s'attend toujours à « Seigneur, donne » et on oublie que nous sommes appelés à fournir des efforts. Alors, c'est là qu'on peut commencer effectivement à lire la deuxième épître à Pierre, je pense que vous avez eu le temps de trouver, et nous allons relire les 11 premiers versets. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance, retenez ce petit mot, par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Et puis, on passe de la paix à la puissance, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, et c'est vraiment là le cœur de notre méditation, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, toutes ces choses, hein, et qu'elles y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordé. Amen. Alors, nous avions vu effectivement la semaine dernière la notion de notre foi. Et juste un rappel, pourquoi avoir mis cette image ? Parce qu'il n'est pas question là de la foi, cette vague idée de la pensée de l'éternité, mais nous avons notre foi, cette foi qui est marquée par la transformation de notre cœur, mais on ne va pas revenir dessus. C'était pour justifier l'image. Après, nous avons vu effectivement que nous sommes appelés à ajouter à notre foi la vertu. Le verset qui correspond le mieux pour illustrer ce verset, c'est dans Jacques. Hein. La foi sans les œuvres est morte. Donc c'est comme une évidence, c'est comme tout à fait normal que Pierre dise à notre foi, à cette dimension de transformation intérieure, il faut que ça se voit extérieurement. Et ça s'appelle la vertu. Parce que la vertu, ce n'est pas seulement une question de faire. Mais selon la définition du dictionnaire, la vertu, c'est une disposition. Une disposition constante à faire le bien et à éviter le mal. Bah oui, parce que quand le cœur est bien disposé, la main suit naturellement. Et nous ne sommes pas appelés à avoir une religion où il faut faire, il faut faire, il faut faire pour gagner le ciel. Pas du tout. Le ciel, il nous est offert. Il est largement ouvert à ceux qui se laissent transformer à l'intérieur. Et si le cœur est changé, alors normalement, ça doit se voir à l'extérieur. Alors, nous avions vu effectivement que la vertu inspirée par la foi, ce n'est pas seulement une bonne disposition. Oh, je suis gentil avec les autres. Non, c'est plus que ça. Notre foi, nos actions, notre caractère, nos faits et gestes doivent être inspirés de la foi qui est imprégnée de pardon, de pureté, d'intégrité, d'honneur, d'espérance, d'encouragement, de service, d'abnégation. Je vous laisserai écouter la méditation sur le site pour ceux qui n'auront pas eu l'occasion de l'entendre. Et ce matin, nous allons voir ce passage. Faites tous vos efforts pour joindre, pour ajouter à la vertu la connaissance. Il y a vraiment un verset qui, on retrouve la même mentalité, c'est Paul qui le dit, c'est en Colossiens chapitre 1 verset 10. Et c'est le même esprit. Paul encourage les chrétiens à marcher d'une manière digne, on retrouve la notion de la vertu, d'une manière digne et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. On grandit dans la connaissance. Cela dit, ce que l'on va voir également, c'est que la connaissance en elle-même ne suffit pas. La bonne disposition, la vertu, ne suffit pas. On peut être quelqu'un de bien disposé, et vous connaissez déjà un peu ce verset, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On peut savoir, on peut avoir le cœur bien disposé, aimer les choses de Dieu, on peut se dire, mais oui, je sais qu'il y a quelque chose, on peut avoir été touché, bouleversé dans notre existence, mais sans forcément avoir de conviction, d'assurance, de savoir ce qu'il convient de faire. C'est pour ça que la vertu, la bonne disposition de cœur ne suffit pas. Il faut une direction, il faut un sens. Et c'est le but de la connaissance. Sans connaissance, nous restons là dans un flou artistique. Est-ce que nous regardons encore la connaissance comme une qualité ? Pourquoi poser cette question-là ? Est-ce qu'il peut arriver que la connaissance soit... C'est pas pour tous, mais... Il peut arriver que quelques-uns se disent « Oh, mais la connaissance, c'est pas si important que ça. » Parce qu'il arrive, et je pense que vous avez déjà rencontré ce genre de personnage, où les gens sont tellement remplis de connaissances qu'ils en deviennent presque un peu orgueilleux. Hein? Et quelque part, on reconnaît la connaissance de certaines personnes, mais on n'a pas du tout envie d'être comme eux. Parce qu'ils dégagent de leur personne une sorte de suffisance, d'arrogance. On n'a plus besoin de leur apprendre quoi que ce soit parce qu'ils savent tout. Et on se demande même si cette connaissance-là, en fait, si c'est vraiment une bonne chose. Et on peut même se dire, moi je préfère être plus simple et en connaître moins que de devenir comme lui. Et c'est vrai. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a dit aux pharisiens. Faites ce qu'ils vous disent, mais faites pas ce qu'ils font. Mais la connaissance, c'est pas parce que l'orgueil pollue toute chose, c'est pas parce que l'orgueil devient un fait. Le caractère d'une personne, que la connaissance en tant que telle n'est pas bonne. Au contraire, la connaissance est une bonne chose, elle est nécessaire. A contrario, l'ignorance, c'est terrible. L'ignorance aveugle. L'ignorance maintient dans la peur. L'ignorance aveugle. L'ignorance maintient dans le mensonge. L'ignorance nous rend indécis. L'ignorance nous fait faire des erreurs, des maladresses. Donc l'ignorance n'est bonne à personne, à quel que soit le niveau. La connaissance, et ça a été aussi, ça a même marqué l'histoire des assemblées de Dieu. La connaissance a été de temps en temps vue, ou est de temps en temps vue, comme si la connaissance pouvait s'opposer à la vie de l'esprit. Pourquoi est-ce que je dis que ça a marqué l'histoire des assemblées de Dieu? Parce que les assemblées de Dieu sont nées d'un réveil spirituel, un souffle d'évangélisation, avec les signes, les prodiges, les manifestations surnaturelles, et c'est comme ça que l'évangile a progressé, que des églises en grand nombre se sont ouvertes en France. Et il y avait parmi les premiers pionniers une certaine réticence aux écoles bibliques. Ils disaient, oh non, on ne va pas faire trop d'écoles bibliques, le plus important c'est la vie de l'esprit, c'est les dons, c'est les miracles, c'est ça qui touche les cœurs, c'est ça qui va plus loin, etc. Et dans la suite des temps, on s'est aperçu qu'il y avait une lacune dans la théologie. Et je suis sûr que vous avez déjà pu entendre ou observer de vous-même que de temps en temps, il y a des dérapages dans la dimension de la vie de l'esprit, manque de connaissance. Parce que la connaissance n'est pas là pour étouffer la vie de l'esprit. La connaissance n'est pas là pour étouffer l'amour. La connaissance n'est pas là pour étouffer la joie, la paix, la spontanéité. Non, au contraire, la connaissance est là pour sécuriser toutes ces valeurs-là, pour canaliser, pour consolider. J'ai entendu cette semaine une histoire, je dis, mais c'est très à propos. C'est l'histoire d'un homme qui il a un petit bout de terrain et il a planté des pommiers, des petits pommiers. Alors il en a planté plusieurs et il était content d'un pommier. Parce que malgré son jeune âge, malgré sa faible, cette petite pousse, quoi, elle n'était pas très grande, il portait beaucoup de fruits, plus de pommes que les autres. Et il était content de son pommier. Ah, ça c'est un bon pommier. Alors il parlait avec ses pommiers. Vous voyez, il faut que vous fassiez comme lui, c'est un bon exemple. Et puis voilà qu'il a dû partir s'absenter quelques jours. Et quand il revient, oh, catastrophe. Le pommier sur lequel il y avait plein de pommes, il est tombé. Il n'est pas tombé à cause du tronc. Il s'est cassé à partir de la racine du bas. Et là, ça lui donnait une bonne leçon spirituelle. Parce qu'effectivement, on peut mettre l'emphase beaucoup sur les fruits, sur les résultats, sur le tape à l'œil. Mais si la racine est faible, tout finit par s'écrouler. Et la connaissance, c'est cela. La connaissance, c'est avoir cet enracinement, cette profondeur, cette maturité, cette consistance qui permet qu'on grandit sans avoir à craindre les accidents ou les dérapages. La connaissance canalise, et j'ai même envie de dire que normalement, la connaissance valorise la vie spirituelle. Vous verrez que en méditant, et on a déjà eu l'occasion, mais on reviendra dessus, en méditant des passages qui nous appellent à rentrer dans la vie de l'esprit, il y en a bien plus dans la connaissance de la parole de Dieu que dans nos propres expériences personnelles. Parce que la parole de Dieu est là, au contraire, pour nous ouvrir des perspectives. Alors que nous, bien souvent, on les réduit, on les minimise. On en a peur et on se demande si en finalité ce n'est pas par nos manques de connaissances qu'on étouffe la vie de l'esprit. Alors l'objectif ce matin, c'est à la fois de comprendre et la prière, le désir de mon cœur, c'est de susciter un désir dans chacun de notre cœur, de dire Seigneur, je veux grandir dans cette connaissance. Je veux grandir dans cette connaissance. Je veux vraiment joindre à ma vie, joindre à mes qualités morales, à ma vertu, la connaissance. L'ironie, c'est qu'il y a un verset qui est très connu. J'ose vous pousser sur la pente. Connaissez-vous un verset qui parle de la connaissance dans la Bible? Dites-moi. Alors, il y a la connaissance en. Ça, on verra ça tout à l'heure. Ça, on verra ça. Alors, tu as dit quoi? Voilà, vous connaissez mon peuple, hein, manque. Alors pourquoi est-ce que j'ai dit par ironie? Alors je suis désolé, hein, j'ai poussé à la faute en fait. C'est qu'on le connaît tous à peu près sous cette forme-là, ce verset-là. Mon peuple,
périr par manque de connaissances.
Et pourquoi est-ce que j'ai une ironie? Parce que d'un autre côté, on connaît très bien ce verset-là, enfin, cette formulation-là. Et l'ironie, c'est qu'en fait, le verset, c'est pas celui-là du tout. Eh ouais. On se sert d'un verset pour dire, oh oui, il faut de la connaissance. Et en fait, compte, on s'aperçoit que ce verset-là, non seulement on le déforme un peu, et surtout, on passe à côté du message que Dieu veut donner au travers de ce texte-là. Alors, on va afficher trois textes. La référence de la phrase que nous disons, c'est celui-ci. Osée, chapitre 4, verset 6, qui dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Donc effectivement, notre formulation, elle est pas fausse. Mais on passe à côté du sens profond. Pourquoi ? Parce qu'il y avait à l'époque un gros problème. C'est Osée le prophète qui parle de cette connaissance et qui met en évidence que le peuple de Dieu est en train d'être détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais ce n'est pas un manque de connaissance parce qu'il ne le sait pas, par oubli, par comme il pourrait nous manquer, je sais pas, du sel ou du beurre à la maison. Il y a une autre réalité à l'époque. Et il le détaille bien avec ces versets-là. En Osée chapitre 4, verset 1er, il est écrit « Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance, puisque tu as, et vous lisez le mot là, rejeté la connaissance. » Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et Osée continue dans la pensée de Dieu, car j'aime la piété et non les sacrifices. J'aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Dieu a un procès avec son peuple. Non pas parce que le peuple ne sait pas, mais parce que le peuple ne veut pas savoir. Vous voyez la grande différence ? Dieu fait la différence des différents types d'ignorance que l'on peut avoir. J'en ai classé trois. On peut être ignorant volontairement. On peut être ignorant par orgueil. Et Jésus parle, il donne l'image de l'aveuglement. Et on peut être ignorant par paresse, parce qu'on ne veut pas, parce qu'on n'a pas envie de faire l'effort. On peut être ignorant sincèrement. Et Dieu ne tient pas compte de ça. Quelqu'un qui est dans l'erreur parce qu'il ne savait pas, parce qu'on ne lui a jamais dit, parce qu'il n'a jamais appris, parce qu'il n'a jamais eu l'occasion d'être mis à la connaissance des choses. Dieu dit que sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu appelle maintenant tous les hommes. Ils ont à se repentir. Dieu ne tient pas compte de notre ignorance involontaire. Nous étions tous des ignorants, n'est-ce pas ? Le jour où nous avons rencontré le Seigneur, nos yeux se sont ouverts. Et qu'est-ce qu'on a pu se dire ? Mais c'est pas possible, toutes les erreurs que j'ai pu faire. Dieu sait qu'on fait des erreurs et que nous sommes dans un monde qui nous plonge dans l'erreur, qui nous plonge dans la médiocrité, qui nous plonge dans les erreurs. Parce que le prince de ce monde, il est menteur dès le commencement. Donc nous grandissons dans le mensonge et évidemment, ce n'est pas dans le mensonge que nos yeux souffrent. L'ignorance des orgueilleux est pire. Et là, c'est un péché. L'ignorance des orgueilleux, on a un très bon exemple pour les lecteurs de la Bible au travers des pharisiens. Ah, ils savent tout, les pharisiens. Vous avez vu comme ils savent ? Tout. Pas besoin de leur dire quoi que ce soit. Et c'est vrai ! Ils savent les choses. C'est ça qui est terrible chez les pharisiens. Ils connaissent très bien les choses. Et pourtant, il y a comme une sorte d'endurcissement. Et Jésus parle d'aveuglement. Alors vous pourrez retrouver ce dialogue en Jean chapitre 9, verset 40. Quelques pharisiens qui étaient avec Jésus, ayant entendu ses paroles, lui disent « Et nous, sommes-nous aussi aveugles ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugle, au sens si vous étiez réellement aveugle, si vous étiez réellement ignorant, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. N'est-ce pas étonnant qu'être dans l'ignorance tout en ayant la connaissance? On va revoir ce point-là tout à l'heure. La situation au temps d'Osée, c'est que le peuple refuse. Ils refusent d'écouter la parole de Dieu. C'est pas leurs histoires, c'est pas leurs affaires. On fait notre vie, on est à gauche, on est à droite, on a nos conceptions, on fait comme on veut, on refuse d'écouter. Et même si on entend, comme dit l'expression, pas toujours. Et c'est la situation du peuple d'Osée. Ils ne cherchent pas la volonté de Dieu. Et comme ils ne cherchent pas la volonté de Dieu, comme ils ne cherchent pas à faire ce que Dieu veut, alors ils se laissent aller à leur péché, sans même se soucier de Dieu. Et c'est pourquoi, dans les paroles que nous avons lues, mon peuple est détruit. C'était dans le texte un peu plus explicite quand j'ai lu, vous aurez les références plus longues chez vous. C'est pour ça que Dieu dit, je vous laisse au péché, je vous livre à vos conséquences. Dieu n'est pas celui qui veut châtier en disant, tiens, je vais te faire mal et puis c'est là que tu vas comprendre. Mais il nous laisse à nos mauvaises pensées, il nous laisse à nos mauvais sens, il nous lève à nos mauvais raisonnements. Et c'est ainsi qu'on se fait nous-mêmes mal. Parce que qui dit mauvais choix, dit mauvaise conséquence. Et qui dit mauvaise conséquence, c'est là qu'on commence à avoir mal et qu'on commence, et il faut l'espérer, à se détourner de notre folie. Dieu les laisse à leurs péchés, à leurs échecs, à leurs maladies, à leurs ennemis. Et donc la conséquence de tout ça, c'est effectivement la destruction. Que nous ne soyons pas non plus, comment dire, amnésiques. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 6 nous dit que toutes ces choses sont arrivées afin que cela nous serve d'exemple, afin que nous-mêmes on n'ait pas les mêmes mauvais désirs. Si le peuple juif a supporté, et prenez le temps de lire l'Ancien Testament, si vous voyez toutes les souffrances par lesquelles le peuple juif est passé, au moins qu'il ne souffre pas ça en vain, que ça nous serve au moins d'exemple. Et ce qui est vrai pour le peuple juif, je crois que, et je parle plus aux jeunes, mais aux plus grands aussi, ouvrez également vos yeux. Pourquoi suivre la voie de ceux qui sont en train de se faire mal tout autour de vous? Pourquoi suivre le modèle des gens qui vont divorcer? Pourquoi suivre le modèle des gens qui cherchent à s'émoustiller et qui ont la mort dans l'âme? Pourquoi chercher modèle sur cette société qui va de pire en pire dans un non-sens, dans une tristesse, dans une désolation, dans un découragement, au lieu de suivre la voie du Seigneur qui communique paix, joie et vie éternelle? Ouvrez vos yeux. La misère qui est autour de là n'est pas pour dire « Ah oui, c'est bien fait pour vous !» Mais c'est afin que l'homme réalise par lui-même que le choix, que le chemin qu'il prend mène à la ruine. Ouvrons nos yeux, ayons cette intelligence. Ne laissons pas dire « Oh, moi je ferais mieux que les autres, on ne va pas faire mieux que les autres. » Ils sont des milliards à avoir dit ces choses-là. Pourquoi est-ce que nous, on serait meilleurs? Le seul qui a des projets de bénédiction pour vous, c'est Jésus. On l'a vu encore vendredi soir. Le diable est appelé l'adversaire, l'ennemi de votre âme. Donc ne vous laissez pas séduire par ses folies. Faites tous vos efforts pour joindre à la vertu la connaissance. Alors il y a, nous avons qu'un seul mot pour résumer le mot connaissance, mais il y a des subtilités dans la langue grecque. Derrière le mot connaissance, il n'y a pas forcément toujours la même pensée. Par exemple, quand nous avons lu au verset 2, 2 Pierre 1, 2, il nous est appelé « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. » En fait, le mot « connaissance » là a une pensée. C'est la connaissance qui est précise, exacte, minutieuse. Oui, apprenons des choses précises sur Jésus, sachons exactement qui il est, soyons exacts, rigoureux. Ça, c'est cette connaissance-là, j'ai presque envie de dire académique, scientifique. Et il y a des domaines dans lesquels nous sommes appelés, et notamment la connaissance de Dieu, à avoir cette connaissance rigoureuse. Ne soyons pas des hommes de l'à peu près. Oh, moi, je crois que Dieu, il est comme ça. Non, soit il est comme ça, soit il est pas comme ça, mais il faut que dans ton cœur, tu saches, tu sois dans la connaissance, dans l'exactitude des choses. Mais au verset 5, Quand il nous est demandé de faire tous nos efforts pour joindre à la vertu la connaissance, ce n'est pas le même mot. C'est le mot de la compréhension. C'est le mot de la sagesse. C'est le mot de l'intelligence. C'est, on n'est plus là dans un rapport de « je sais », mais c'est plutôt une notion de « je comprends ». Vous voyez la différence ? On n'est pas appelé, mes bien-aimés, à connaître les versets par cœur, la référence par cœur, la traduction en grec, et peut-être même en hébreu. C'est bien. Mais ce que Paul nous demande, ce que Pierre nous demande de joindre à notre vertu, c'est la compréhension du verset. C'est le sens du verset. C'est la mentalité du verset. Il ne nous est pas demandé de savoir plein de choses sur la Bible. Combien il y a de lettres ? Combien il y a d'auteurs ? L'année ? C'est bien de savoir ces choses, bien sûr, mais on doit grandir dans la connaissance où, au-delà du texte et du livre lui-même, c'est l'auteur que nous sommes appelés à connaître. Amen. Connaître l'auteur de la Bible, plus que des choses sur la Bible. Nous ne sommes pas appelés à connaître tous les points de doctrine avec exactitude. Bien sûr que c'est utile et nécessaire, mais nous ne sommes pas appelés à être des théologiens. Nous sommes surtout appelés à connaître la volonté de Dieu. Les pharisiens et les docteurs de la loi étaient très fortiches pour ça. Des super des théologiens, capables de dire ce qui était écrit de ce qui n'était pas écrit, capables là, de savoir plein de choses sur l'historicité. Mais quand ils étaient devant Jésus, leur cœur se fermait. À l'appel de la repentance, ils n'y comprenaient rien. Quand Jésus dénonçait l'amour de l'argent, ils se moquaient de lui. Et quand il y avait des miracles et des prodiges, alors ça leur passait tellement au-dessus que pour eux, ça ne pouvait pas venir de Dieu, c'était forcément du diable. Donc je dis, mais comment être dans une telle connaissance et pourtant dans une telle ignorance ? Parce que la connaissance dans laquelle Dieu nous invite à grandir, au-delà de l'exactitude, au-delà des versets, au-delà de la connaissance intellectuelle, c'est une connaissance du cœur. Vous connaissez les amis de Job ? Ils vont voir Job, on a toutes les paroles, mais tout ce qu'ils disent, c'est bien, honnêtement. Mais pourquoi ça ne va pas pourtant ? Parce qu'ils avaient la connaissance, mais c'était de connaissance intellectuelle. Ce qu'ils disaient n'était pas à propos. Ce qu'ils disaient ne correspondait pas à la situation de Job. Ce qu'ils disaient, c'était une connaissance stérile, sèche, intellectuelle, formative, mais absolument pas cette compréhension, cette pénétration de la pensée, de la volonté de Dieu. Absolument loin de savoir, Seigneur, qu'est-ce que l'on peut communiquer à Job pour que cet homme soit relevé. Vous comprenez ? Alors ne soyons pas comme ces amis de Job. Pourtant, ils connaissaient plein de choses. Et ce qu'ils disaient était juste. Ils disaient, c'est juste ce qu'ils disaient. C'est pour ça que c'est dans la parole de Dieu, d'ailleurs. Ce qu'ils disent, c'est juste. Mais absolument pas adapté. Et nous sommes appelés à être des hommes qui communiquent de bonnes choses à nos citoyens. Tu disais tout à l'heure que la connaissance enfle et l'amour édifie. Et il y a effectivement une autre référence dans la deuxième épître. Passe pour voir. Voilà, recherchons la connaissance. Il y a dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 6, Paul qui nous met en garde. Mais faites attention, parce que la lettre, elle tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. Paul nous met en garde. Parce que déjà à l'époque, avec les juifs, c'était leur gros problème. Ils avaient plein de connaissances théologiques, plein. Et lorsque Jésus est venu, bah lui, on va le tuer. Mais pardonnez-moi, mais il se peut que dans le peuple de Dieu, on fasse la même chose. On va à l'église. Mais dès qu'il y a un mouvement de l'esprit, on étouffe. Seigneur, on vient t'adorer. Mais oh, faut pas trop que... Hein, calme quand même, hein. L'adoration c'est bien, mais... Faut que je dorme tranquille, moi. Faisons attention. La connaissance, c'est bien, c'est nécessaire, indispensable. Mais l'esprit, nous devons la joindre à la connaissance. Elle ne s'oppose pas, mais l'esprit donne la vie à la lettre. Il nous est dit en Romains, chapitre 1, verset 21, il y a plein de références par rapport à cette dualité, mais c'est Paul qui crie « Ayant connu Dieu, ils ont bien connu Dieu, mais ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés, où ça ? Dans leur pensée, dans leur cœur, sans intelligence, et plongés dans les ténèbres. » Vous voyez la stratégie du malin ? Oh, tu connais Dieu ? Mais tu te laisses toi-même égarer dans tes pensées, dans tes considérations personnelles. Tu te fais ton propre Dieu. Et ton cœur est sans intelligence en finalité. Parce que tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu travailler. Oui, tu as de la connaissance. Ils ont connu Dieu. Ils ont même expérimenté, ils ont touché. Mais leur cœur est sans intelligence. À quoi nous servirait-il d'être des gens remplis de connaissances si notre cœur est sans... remplis de connaissances si notre cœur est sans intelligence? Ça n'a aucun sens. Aucun sens. La connaissance littéraire sèche. Et Dieu ne nous a pas donné un nouveau cerveau. Il nous a donné un cœur nouveau. Amen. Et il nous a donné un cœur nouveau qui, lui, va changer notre raisonnement. Mais il ne nous a pas donné seulement une nouvelle façon de penser, de raisonner, de philosopher. J'ai connu comme ça un homme. Il a vraiment été touché par le Seigneur, véritablement. Quand je l'ai vu, ça m'a donné faim et soif de vivre ce qu'il vivait. Puis les années ont passé. Et cet homme, toute cette expérience qu'il avait vécue, touchée, expérimentée, voilà que tout ça, c'est devenu de la philosophie religieuse. Prenons garde. Si nous négligeons la vie de l'esprit, si nous négligeons cette connaissance qui vient de Dieu et qui se dépose dans notre cœur, alors nous finirons par être juste des bons religieux, mais sans plaire à Dieu et nous étouffer nous-mêmes. Dieu ne nous a pas donné le ministère du raisonnement, pardonnez-moi. Il nous a donné le ministère avec le Saint-Esprit. Amen. Et c'est comme ça que nous devons œuvrer avec le Seigneur. Tout ce que je fais, Seigneur, je veux que ce soit canalisé par la parole de Dieu. Amen. Mais je veux surtout qu'il y ait cette vie de l'Esprit. Je veux qu'il y ait cette canal. Je veux qu'il y ait cette vie. Je veux qu'il y ait cette vigueur. Je veux qu'il y ait cette joie. Je veux qu'il y ait cet entrain. Je veux qu'il y ait ces fleuves d'eau vive que tu as promis. Et la parole de Dieu, la connaissance, sera là pour me canaliser, pour me protéger, pour rectifier. Et on a besoin, non, d'être rectifié, corrigé et encadré. Il nous est bien dit en Ésaïe, chapitre 11, verset 2, que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Il est parlé de Jésus, mais c'est le même Esprit qui nous a été donné. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et voyez les descriptions. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil. Là, c'est quelque chose de pratique. Là, c'est adéquat et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et là, quand on lit ça, dans le cadre de ce qu'on vient de dire, ça a tellement de sens. Tout est cohérent. Il y a là une autorité spirituelle que nous sommes appelés à vivre. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Proverbes chapitre 2. Et on va voir un texte qui est incroyable. Proverbes chapitre 2. J'espère que ce texte va vous donner envie de rechercher la connaissance. Proverbes chapitre 2, verset 1er, nous lirons jusque la première partie du verset 13. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si ton oreille est attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui. Si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie des fidèles. Alors, tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent en bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers et de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture. Amen. Mais ça vaut pas le coup? Ça vaut pas le coup de chercher cette sagesse? Et ce texte est incroyable, parce que par tous ces termes, droiture, intégrité, justice, équité, nous comprenons vraiment le lien étroit avec la vertu. Vous vous rappelez de la vertu? C'était exactement ces mots-là qui étaient employés. Et ça, c'est le contexte favorable pour que nos cœurs puissent être là sensibles et réceptifs à cette intelligence, à cette connaissance de Dieu. Quel contraste! Rappelez-vous, quel contraste avec le peuple d'Osé, le peuple de Dieu sous Osé. Eux, ils rejetaient. Et Dieu l'a dit, mais si vous me rejetez, je vais vous rejeter aussi. Et vous allez être détruits. Je vous le dis, si vous rejetez la connaissance, vous allez mourir, vous allez périr, vous allez être anéantis. Dieu est très clair là-dessus. Mais là, c'est complètement l'inverse. Au contraire, là, nous sommes appelés à connaître l'intelligence, le discernement, la compréhension. Il nous est parlé que nous sommes gardés, protégés, conduits. Je ne fais que reprendre les textes, les mots qui sont dans le texte. Il nous est parlé également de sentiers, de routes, de voies. Parce que quand on a cette connaissance, non pas intellectuelle, mais cette connaissance de cœur, la Bible nous dit que on trouve dans notre cœur des chemins tout tracé. Le Seigneur nous conduit, le Seigneur nous accompagne. Ça ne veut pas dire qu'on a déjà un GPS qui est programmé jusque les 600 km de notre vie. Mais on sait que chaque fois qu'on nous fait un pas, le Seigneur est devant nous. Amen. Mais quelle grâce de marcher avec assurance. Combien d'hommes, de femmes sont sur cette terre, ils marchent, ils ne savent même pas où ils vont. Il n'y a pas de sens. Ils sont comme des hommes qui tournent en rond comme ça. Et tu vas où? Bah, je sais pas. Mais quelle tristesse. Alors que le Seigneur est celui qui veut nous donner de l'assurance, il nous conduit, il nous est parlé de route, de foi, il nous est parlé de paix, il nous est parlé de salut, il nous est parlé de délivrance, il nous est parlé de délice, amen. Et bien aimé, la connaissance, cette connaissance qui se met dans le cœur, cette connaissance qui fait qu'on ne connaît pas des choses sur Dieu, mais on connaît Dieu. On n'a pas seulement entendu parler de la vie de l'esprit, mais on vit la vie de l'esprit. Non pas que, ah oh ben je suis allé à l'église, ouais j'y vais le dimanche, le vendredi, c'est bien, il y a des réunions. Mais au quotidien, il y a cette intimité avec Dieu. Je connais Dieu parce qu'il est avec moi, dans ma chambre, dans ma méditation, dans ma réflexion. Il est celui qui me conseille, il est celui qui me conduit, il est celui qui me protège. Quelle bénédiction de savoir que Dieu veille sur nos vies, qu'il est un bouclier. C'est une vraie guerre, hein. Dans le ciel spirituel. Et plusieurs ici savent ce que ça veut dire, ça. Alors bien sûr, quand on a quitté le terrain de la vie spirituelle, le diable, il n'a plus besoin de nous attaquer parce qu'on est nous-mêmes sortis du champ de foire. Mais c'est vrai que quand on s'attache au Seigneur, il y a du combat. Mais c'est le Seigneur qui combat pour nous, amen. C'est le Seigneur qui remporte les victoires. C'est le Seigneur qui nous encourage. Et ça n'arrive pas à ceux qui sont là juste dans une dimension « je sais des choses », mais ceux qui vivent les choses. Je voudrais garder un exemple, une dernière référence. Il nous est parlé dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. Il nous est parlé des filles d'Issacar. Ils avaient quoi de particulier? Ils avaient l'intelligence des temps. Pour savoir ce que devait faire Israël. Amen. Que Dieu nous donne, que nous recherchions. Seigneur, donne-moi cette intelligence. Je veux faire partie dans ma génération de ces hommes, de ces femmes qui savent ce que je dois faire. Je veux être un instrument de bénédiction. Et l'Église doit rechercher cette intelligence, cette sagesse. Cette connaissance de Dieu qui lui permet de dire oui, je sais ce qu'il y a à faire, je sais où il faut aller. tant d'hommes, tant de femmes connaissent des choses sur Dieu, mais ne savent pas du tout ce qu'ils ont à faire. Ils sont là, aveugles, tâtonnants, dans leur raisonnement, dans leur pensée. Ah oui, là ça va, là ça fonctionne. Mais il n'y a pas cette sagesse qui touche le cœur et qui donne de l'affermissement. Comment joindre à la vertu? Comment joindre à notre bonne disposition la connaissance? La formule est toujours la même. Relisez le psaume 119 et vous verrez la place de la méditation. Non pas seulement la place de la lecture, mais la lecture et la réflexion de ce que je viens de dire. La méditation, réfléchir. Mais il nous dit que celui qui réfléchit aux choses a trouvé le bonheur. Non pas dans les élucubrations, mais la méditation, la réflexion. Seigneur, par rapport à ce que je pense, par rapport à ce que je vis, Seigneur, qu'est-ce que dit ta parole? Et qu'est-ce que ta parole veut me dire à moi aujourd'hui pour que je puisse aller de l'avant, pour que je fasse ma vie selon ta volonté? Méditer la parole de Dieu. On peut le faire en voiture, on peut le faire au travail. L'important, c'est cette disposition de cœur à ruminer la parole de Dieu. Par l'enseignement à l'église. Pardonnez-moi, ça fait partie des premiers principes que les disciples avaient. Vous lirez en Actes chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient chaque jour dans l'enseignement des apôtres. On a besoin de la méditation, de la prédication de la parole de Dieu. Ne me dites pas qu'une demi-heure de prédication le dimanche vous suffit. Grandir dans la vérification dans les Écritures. Il nous est parlé en Actes chapitre 17, verset 11, d'hommes et de femmes qui entendaient la prédication. Et puis ils vérifiaient dans les Écritures si ce qu'on leur enseignait, c'était la vérité. Mais il faut ça. Surtout aujourd'hui, où je sais qu'il n'y a pas qu'un prédicateur dans votre vie. Il suffit de cliquer sur Internet et vous avez à foison. C'est bien d'écouter des prédications et je vous y encourage. Mais ne gobez pas tout. Ne mettez pas foi à tout esprit. Il y en a tant qui sont bien partis et qui sont arrivés dans les choux. Parce qu'à force de tout écouter, on ne sait plus. Un vieux, c'était mon premier pasteur, il disait à force d'être super ouvert, on prend des courants d'air. Ben oui. Il faut d'entendre refermer, dire attends, je vérifie que ce que tu me dis, c'est, ça concorde. Parce qu'on n'a pas fini d'entendre ces faux prophètes. Alors bien sûr, ces faux prophètes existent parce qu'il y a des gens pour les écouter. Parce que les gens, ils ont envie d'écouter des choses qui leur sont agréables. Mais faisons attention. Faisons attention. Ayons cette connaissance, non pas de l'esprit, de l'intellect, mais du cœur de la vie avec le Seigneur Jésus. Parce que les paroles des faux prophètes ne mènent jamais la vie dans le cœur. Ça met de la contrariété, ça met du doute, ça met des craintes, ça met de la suspicion, ça met de la distance. Ça, c'est caractéristique. Mais la connaissance qui vient de Dieu, qui nous donne de l'intelligence, nous donne aussi au plus profond du cœur un bon dépôt qui est spirituel. Comment grandir dans la connaissance? Par la communion intime dans la prière, mes bien-aimés. Vous pouvez venir à toutes les prédications, avoir même des meilleurs prédicateurs que vous avez là, et ça, il y en a sûrement. Mais si vous ne prenez pas le temps d'avoir un temps d'intimité avec le Seigneur, un temps de prière, non pas de récitation, mais un temps de communion, un temps où vous laissez l'Esprit de Dieu déposer des choses sur votre cœur, lui-même vous révéler ce qu'il a envie de vous faire connaître dans la parole de Dieu. Si vous ne vivez pas ça, vous serez malheureux et vous ne grandirez jamais. Il faut prendre de ces temps où vous êtes tout seul entre vous et Dieu. Ces moments qui sont délicieux, ces moments qui sont profonds, ces moments que vous ne pourrez jamais partager avec les autres, parce que ce sont des moments intimes entre vous et Dieu, parce que Dieu déposera des sentiments, des valeurs, des directions, des lumières, des vérités qui vont vous toucher, vous impacter personnellement. Et c'est en ce sens-là que vous grandirez dans la vraie connaissance, non pas intellectuelle, mais la connaissance du cœur. Comment grandir dans la connaissance? Et ce sera le dernier point. En acceptant de remettre en cause nos raisonnements, de accepter un moment de dire: Seigneur, peut-être que je me trompe, peut-être que je ne conçois pas les choses telles que toi tu les conçois. Accepter une remise en cause personnelle. Mais on a toujours fait comme ça. Est-ce que c'est un argument de vérité, de justice, d'équité? On doit apprendre effectivement à dire Seigneur, je veux pas rester ce que je suis, mais je veux devenir l'homme et la femme que tu veux que je devienne. Et comme on est tous conscients, nous sommes appelés à ressembler à Jésus. Et on sait qu'il y a de la marge pourtant. Pour que cette marge diminue, il va falloir que soit c'est Jésus qui s'abaisse ou c'est nous qui nous élevons, mais on connaît le principe. Hein. C'est à nous de nous changer. C'est à nous de nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et là, on dit, mais c'est incroyable, on dirait que la Bible, elle dit toujours la même chose. Mais oui, il y a besoin que cette intelligence soit transformée. Il y a besoin que de temps en temps, on a toujours fait comme ça, mais ce n'est pas une question de faire qui importe. C'est la mentalité, la disposition de cœur, notre compréhension des choses. Seigneur, donne-nous d'être comme les filles d'Issachar. Surtout dans les temps troublés dans lesquels nous sommes. Donne-nous d'avoir l'intelligence. L'intelligence des temps, l'intelligence des circonstances. L'intelligence du cœur. Afin de savoir ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. Pour l'Église et dans ce monde. Amen.